Michelet dit que les sorcières sont venues comme ça, c'est que dans le Moyen-Âge, les hommes étaient à la guerre du Seigneur ou à la croisade, et que toutes les femmes dans les campagnes restaient complètement seules, isolées pendant des mois. Des mois et des mois dans la forêt, dans leur cabane. Et que c'est comme ça, à partir de la solitude, d'une solitude inimaginable pour nous maintenant, qu'elles ont commencé à parler aux arbres, aux plantes, aux animaux sauvages. Comment dirais-je, à inventer l'intelligence avec la nature, à la réinventer. Une intelligence qui devait remonter à la préhistoire, si vous voulez, à la renouer. Et on les a appelées des sorcières, et on les a brûlées. On dit qu'il y en a eu 1 million dans tout le Moyen-Âge. Et au commencement de la Renaissance, on a brûlé les femmes jusqu'au XVIIe siècle. On est encore là, nous, femmes. Ça n'a pas vraiment bougé. Moi, dans cette maison-ci, avec ce jardin, je suis dans des rapports que les hommes n'auront jamais avec un habitat, un lieu.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Marguerite Duras, avec son goût de l'hyperbole, y va quand même un peu fort dans la relecture de Michelet. En fait, il n'y eut pas 1 million de sorcières brûlées en Europe, mais 10 fois moins. 100 000 exécutions étaient-ils admis pour 200 000 procès entre le XIVe et la fin du XVIIe siècle. Mais aujourd'hui, des historiens révisent ce chiffre à la baisse. 60 000, voire 40 000 exécutions, ce qui est déjà phénoménal. C'est l'Église catholique qui, dès 1233, avait lancé l'offensive contre la sorcellerie, rapidement confondue pour raisons politiques, avec l'hérésie. Mais là où Duras voit clair, c'est en rappelant qu'à l'origine de cette folie se trouve la méfiance millénaire envers la femme. Ève, la pécheresse, la tentatrice, la corruptrice, celle qui a été l'instrument du malin dans le péché originel. Sorcière donc, et puis empoisonneuse, infanticide, pétroleuse, tricoteuse, traître. Les femmes qui, depuis que les archives judiciaires existent, n'en occupent que moins de 10% et sont surreprésentées dans les affaires où les juges recherchent le diable, le sexe et le poison. Les archives nationales, dépositaires de la mémoire, également de la mémoire criminelle du pays, nous présentent dans une exposition passionnante 6 siècles d'affaires emblématiques. Du Moyen-Âge à la Libération sont exposés, dans les salles majestueuses de l'hôtel de Soubise, des parchemins fragiles et des extraits des registres tenus par le Parlement de Paris, des procès-verbaux d'interrogatoires et des comptes rendus d'affaires célèbres. De la paysanne analphabète avouant, sous la torture, des relations intimes avec Belzébuth, jusqu'à Arletty passant en jugement pour avoir aimé un officier allemand, de Louise Michel, à qui ses juges militaires reprochent de s'être habillée en homme, à Violette Nozière, dont les mœurs légères vont peser lourd dans la balance, toutes sont jugées parce que scandaleuses. Un livre, présumé coupable, paru chez l'Iconoclaste, accompagne l'exposition. Pierre Fournier, conservateur en chef du patrimoine, et Julie Doyon, historienne spécialiste des affaires criminelles, qui y ont tous deux contribué, sont aujourd'hui les invités de l'Humeur Vagabonde.
Où vai, où vou nei, te havaia oui. Vai, mou. Vonei te ai ai oi ya ta tara tu vou tu nei huru e moute te ari ai tu mata maru. Ama wi wi yo, waha ama wi wi yo, ito umo te e. Na to puro tu e, ita ma to ha iri iri e. Ite po ava e, i ore, ite aia ua.
Ève, par son péché, par le fait qu'elle a tenté l'homme, conduit l'humanité au péché originel et à la pénibilité, on pourrait dire, comme pour en faire un terme moderne, de la vie quotidienne. C'est elle qui est en quelque sorte l'instigatrice du péché, bien sûr, mais du coup, son action est extrêmement néfaste puisque les hommes sont sur Terre obligés de travailler et de peiner et de vivre dans parfois dans la pauvreté, dans la misère, etc. Le mal même est féminin.
Bonjour Julie Doyon.
Bonjour.
Bonjour Pierre Fournier.
Bonjour.
C'était bien sûr la voix de Claude Gauvard, historienne, qui a supervisé les textes de ce livre, Présumé coupable, donc qui a participé à cette exposition. C'est une idée formidable, qui a l'air simple comme ça, mais pas tant que ça, parce que des archives, Pierre Fournier, en principe, ne distingue pas entre les hommes et les femmes. Il a donc fallu porter un regard, des regards d'historien, d'archiviste, pour arriver à trouver ces lignes de force qui parlent de la vie des femmes dans les cours de justice.
Absolument. Il n'y a pas de distinction dans les archives entre les procès faits aux femmes et les procès faits aux hommes. Il n'y a pas de typologie ni juridique, judiciaire, ni archivistique, bien évidemment. Donc ça a d'abord été un long travail de recherche pour trouver dans ces archives du Parlement de Paris, mais pas seulement, il y a eu aussi le Châtelet de Paris, d'autres cours de justice européennes, des procès-verbaux qui allaient répondre à ces cinq archétypes que vous avez évoqués, donc la sorcière, la présumée sorcière, l'empoisonneuse, l'infanticide, la pétroleuse et la traîtresse.
Mais combien de tonnes d'archives à dépouiller ?
Alors, c'est l'océan des archives judiciaires. C'est, pour le Parlement de Paris, plusieurs dizaines de milliers de registres, de liasses contenant ce qui fait le noyau de l'exposition et du livre, c'est-à-dire les procès-verbaux d'interrogatoire au cours desquels une femme est interrogée par un magistrat instructeur. Et cela, du XIVe siècle jusqu'au XXe siècle. Et on a voulu montrer à travers ces pièces de procédure, qui pour la plupart d'entre elles sont d'ailleurs illisibles, donc nous avons inventé pour la maquette du livre et pour la médiation de l'exposition un moyen de restituer ces extraits, donc faire parler ces femmes. Bien évidemment, il s'agit d'une parole restituée par un greffier. On peut s'interroger sur la spontanéité de certains propos, d'ailleurs, puisque certains ont été extorqués sous la torture. Mais c'est vrai que ces procès-verbaux, à la différence d'autres actes de procédure, nous permettent de rentrer dans l'intimité de ces femmes, puisque s'agissant des sorcières, des empoisonneuses, des infanticides, on va pénétrer leur foyer, hein, leur intimité, comme vous l'avez dit, leur sexualité. Les juges militaires qui jugent les pétroleuses de la Commune de Paris n'imaginent pas qu'elles aient pu agir de manière autonome.
Il faut qu'elles soient sous l'emprise d'un homme.
Et c'est ce qui arrivera encore aux femmes terroristes au cours du XXe siècle.
Mais surtout, Pierre Fournier, ce qu'on voit bien dans cette exposition et dans le livre, c'est qu'en fait, il y a sur ces femmes la projection des fantasmes masculins, parce que depuis les premières sorcières jusqu'aux femmes tondues de la libération, en fait, c'est sur leur pratique sexuelle ou amoureuse qu'on les interroge. On ne peut pas imaginer qu'une femme soit criminelle parce qu'elle est criminelle. Il faut qu'il y ait un lien avec le sexe.
Absolument. On le voit, le corps de la femme est questionné. Et s'agissant des sorcières, nous avons montré des pièces qui nous paraissent invraisemblables. Là aussi, des pièces de procédure où on voit que le juge ordonne à un bourreau donc de piquer le corps de la femme à la recherche de cette marque insensible qu'aurait laissé le diable sur son corps. Donc c'est vrai que à travers ces cinq archétypes, on voit que c'est le corps de la femme qui est scrutée, interrogée. Et à travers ce corps, bien évidemment, c'est la sexualité. Alors la sexualité diabolique pour la sorcière, et s'agissant des empoisonneuses, Julie le dira certainement, c'est vrai qu'on voit aussi qu'à travers ces affaires d'empoisonnement, c'est l'intérieur du foyer qui est interrogé, et à l'intérieur de ce foyer, la relation conjugale qui mène souvent à l'empoisonnement du mari, qui est un des sous-archétypes de l'archétype de l'empoisonneuse.
Julie Doyon, je le disais en présentant cette exposition, les femmes représentent, on le sait bien aujourd'hui aussi, mais depuis la nuit des temps, la minorité de la population criminelle et de la population carcérale. Et là, dans ces procès-là, les femmes sont surreprésentées, comme s'il y avait une typologie de la criminalité au féminin. Ou est-ce que c'est une manière pour les hommes, comme dirait Françoise Héritier, de reprendre la mainmise sur le corps des femmes.
Je le formulerai un petit peu différemment, parce que dans le fond, dans ce que vous dites, il y a aussi un paradoxe, c'est que finalement, la criminalité réprimée, elle est surtout masculine, en majorité. Donc on pourrait dire qu'il y a peut-être un double standard de criminalité, avec des stéréotypes afférents. D'une part, une criminalité masculine qui est surtout de l'ordre de la violence, de la violence de sang, mais de la violence qui la violence spontanée, comme on le voit dans le cadre des homicides qui sont souvent réprimés en justice. Où les hommes représentent à peu près 80% en fait des accusés de ce type de criminalité, et ce depuis le Moyen-Âge, puisqu'on a des statistiques qui remontent jusque-là. En revanche, les femmes sont minoritaires, elles représentent à peu près 5 à 10% de la criminalité jugée également à peu près depuis le Moyen-Âge, mais on les retrouve de manière superlative dans un certain nombre de crimes punis, et souvent, sinon systématiquement, dans des affaires extrêmement graves. D'où cet effet, si vous voulez, d'optique, qui fait qu'on va avoir des fantasmes très forts, une criminalité jugée atroce et souvent sévèrement punie, associée à ces femmes qui pourtant, je le répète, sont minoritaires dans les archives de la justice criminelle en général. Alors, juste pour dire, effectivement, ces crimes atroces, on en a sélectionné quelques-uns, et ils ont souvent trait, mais là encore pas systématiquement, à la vie, je dirais, charnelle, à la vie domestique des femmes. Je dirais qu'il y a sans doute une exception notable, c'est celle des pétroleuses, puisqu'il ne s'agit pas d'un crime avéré, d'une part, au XIXe siècle, et qu'en plus, elles commettent peut-être une transgression d'autant plus grave qu'elles veulent intervenir dans la sphère des hommes, voire prendre un rôle dévolu aux hommes, ce qui n'est pas le cas des autres. Infanticide, empoisonneuse et même sorcière, d'une certaine façon, ce sont des femmes à qui l'on reproche la transgression de comportements féminins attendus. Donc c'est une sorte de déviance dans la conformité plutôt que de transgression absolue, à la différence donc de la pétroleuse.
Alors on entendait au début de l'émission Marguerite Duras parler de la solitude des femmes qui restent sur la petite parcelle de terrain quand les maris sont à la guerre. Est-ce que Pierre Fournier, ces sorcières qui sont bien représentées dans l'exposition, est-ce que c'était toujours des femmes seules, donc des femmes déjà soupçonnées peut-être de ne pas être fidèles, avec des comportements étranges? On ne voit pas beaucoup de femmes, mères de famille ayant un mari qui passe en procès pour sorcellerie.
Alors, c'est vrai qu'il y a des hommes jugés pour sorcellerie, mais on a une majorité de femmes, c'est très clair, pour le XVIe et le XVIIe siècle. Alors, ces femmes ne vivent pas dans des cabanes, la plupart, hein, mais elles sont tout de même marginales. Ça, c'est évident. Beaucoup ont entre 40 et 60 ans, donc elles ne sont plus mariées. Elles l'ont été souvent, mais elles ne le sont plus. Ce sont des veuves, des vétulas, hein, pour employer le terme latin. Mais on trouve aussi certaines très jeunes femmes qui vont être interrogées et parfois torturées pour certaines d'entre elles. Donc, ce sont des femmes marginales, ça c'est un fait. Mais ce ne sont pas forcément des femmes que Michelet imaginait vivre dans des cabanes à l'écart du village. Non, on voit aussi que souvent dans ces communautés villageoises et urbaines de l'Europe médiane du XVIe et du XVIIe siècle, à savoir le nord-est de la France, le nord, la zone helvétique, l'Allemagne du sud, les Pays-Bas, il y a des règlements de compte à l'intérieur de communautés. Et ces règlements de compte vont souvent se terminer par le châtiment d'un bouc émissaire qui se trouve être la femme qu'on va accuser, donc de semer le désordre, en fait, de nuire à l'équilibre de la communauté. Mais c'est vrai que on voit, Marguerite Duras, citant Michelet, évoquer cette proximité, cette familiarité avec la nature. C'est vrai que on voit que les hommes sont inquiets de savoir que des femmes connaissent les herbes, et connaissent les herbes qui guérissent, mais connaissent les herbes aussi qui tuent, qui rendent malades, qui rendent fous. Donc c'est une vision beaucoup plus contrastée que celle que donne Michelet dans son livre extraordinaire, La Sorcière, hein, où il fait finalement de la pitié des Grecs jusqu'à la sorcière du XVIIe siècle, une seule et même femme, magicienne, qui initie l'homme au secret de la nature, profondément malheureuse, solitaire, sorcière. on cite dans le livre une femme dont son mari exige qu'elle vienne dans l'écurie tout de suite parce que le cheval devient fou. Et il lui dit, si tu ne fais pas le nécessaire, je te dénonce. Et donc elle rentre dans l'étable, pose sa main sur le collier du cheval et le cheval tout de suite s'apaise. Voilà, et donc ça figure dans le procès verbal d'interrogatoire d'une certaine Michel, jugée pour sorcellerie au Parlement de Paris au début du XVIIe siècle.
Mais ces femmes que vous décrivez comme scandaleuses, qui sèment le trouble, qui rentrent dans la sphère des hommes, qui inquiètent les hommes, évidemment l'archétype c'est Jeanne d'Arc, puisque elle sera, on sait bien que c'est un procès politique, qu'il est aussi mené par l'Église, mais pour l'accuser, on va la traiter de sorcière, et d'hérétique, mais de sorcière. On va redonner la parole à Claude Gauvard qui nous parle un tout petit peu de ce procès.
L'idée des juges, qui est l'idée masculine du XVe siècle, comme quoi une femme ne peut pas cacher sa nature et surtout pas se déguiser. Le déguisement, c'est la preuve de la ruse. Or, la femme, c'est la ruse. La femme, c'est Ève. Ève, c'est la ruse. Jeanne d'Arc, c'est la femme, c'est Ève, c'est la ruse. Le fait de prendre un habit d'homme est déjà la preuve qu'elle est rusée. Mais en plus, au plan canonique, si vous voulez, au plan même du droit, il y a interdiction pour la femme de se mettre en habit d'homme. Et c'est un des grands enjeux du procès de Jeanne d'Arc, effectivement. Donc, elle se présente pour les hommes comme une femme rusée, comme une femme ordinaire, si vous voulez. Et pire qu'une femme ordinaire, puisqu'elle est encore plus rusée que les autres, puisqu'elle a mené des hommes.
Dans le livre, on voit bien le compte-rendu d'une page du procès de Jeanne d'Arc. C'est la 10e séance de février 1431. Et en fait, on se rend compte, Pierre Fournier, que ce que les juges attendent de Jeanne, mais comme la plupart des juges l'attendent des femmes mises en procès à ce moment-là, c'est un acte de soumission. Les femmes qui ne se soumettent pas, qui ne reconnaissent pas leur faute, qui ne déclarent pas qu'elles vont s'amender, donc s'habiller en femme, cesser de jeter des sorts pour les autres, reconnaître qu'elles étaient dans l'erreur, si elles se soumettent, on peut leur sauver la vie. Si elles ne se soumettent pas, elles sont bonnes pour le bûcher.
Alors effectivement, Jeanne d'Arc, bon, vous connaissez la fin de sa vie, elle meurt sur le bûcher, brûlée vive. Ce qui est important de souligner, puisque
parfois on les tuait avant.
Plus tard, voilà, au XVIIe siècle, les juges
par
vont faire preuve de clémence en faisant étrangler la femme avant qu'elle ne sente l'ardeur du feu. Donc Jeanne d'Arc, les juges lui posent notamment deux questions. La première, et la réponse est très émouvante, autour d'un arbre. Cet arbre des fées, qui se trouvait pas loin du village de Domrémy, donc le juge interroge Jeanne d'Arc sur cet arbre. Et elle répond de manière assez spontanée, on a l'impression, même si c'est du latin retranscrit par le greffier. Oui, oui, cet arbre, j'y allais. Quand j'étais petite fille, je dansais autour avec mes amis. On décorait les branches avec des guirlandes pour la fête du village, etc., etc. J'ai appris que la nuit, il était hanté par des dames fées. Mais pour ma part, je ne les ai jamais vues et ça ne m'intéresse guère. Deuxième question. C'est vraiment la ligne suivante dans le procès verbal, et la mandragore. Et là aussi, Jeanne d'Arc se défend. La mandragore, oui. J'ai entendu dire que c'était une plante magique qui pouvait permettre de gagner de l'argent, mais je n'en ai jamais eu. Et voilà. Et là, on voit effectivement que les juges referment un peu le dossier. On n'aura pas Jeanne d'Arc sur ce dossier. Elle se défend bien, on n'insiste pas. Mais ce qui est intéressant, c'est à la fin du procès, après l'exécution, les Anglais, le pouvoir anglais va énormément jouer là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'il s'agissait de ruiner la légitimité d'un roi qui avait été sacré par une jeune fille, une pucelle, qui était peut-être une sorcière.
Alors justement, le lien entre sorcière et empoisonneuse, il se tisse déjà à cette époque, Julie Doyon, parce que la sorcière est celle qui jette les mauvais sorts, qui connaît les filtres pour avoir de l'amour ou pour faire mourir quelqu'un qui gêne. Donc en fait, cette histoire du poison, elle court depuis les premières pièces du Moyen-Âge qui sont exposées, des procès de sorcellerie, jusqu'à la Libération. Il y aura le procès de Marie Bénard. Le poison est finalement ce qui relie absolument ces cinq archétypes de femmes criminelles, souvent.
Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a là un fil rouge, si j'ose dire, qui relie la figure de la sorcière, je pense aussi qu'on peut associer l'infanticide, puisqu'elle manie les herbes souvent pour essayer d'avorter, en particulier la rue ou la Sabine. Donc on n'est pas très loin non plus de cet univers-là ou de cet imaginaire criminel, ainsi que l'empoisonneuse. Alors pour historiciser un peu les choses, je crois qu'il ne faut pas non plus les écraser complètement en imaginant que la sorcière de la fin du Moyen-Âge et du début de l'époque moderne, c'est l'empoisonneuse du 18e jusqu'au 20e siècle, puisque bien entendu, les techniques, notamment les techniques toxicologiques évoluent, les poisons utilisés aussi, les images aussi de la femme évoluent. Alors, pour rester dans le domaine de l'Ancien Régime et de l'époque moderne, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'assez intéressant, c'est que la figure de la sorcière, de l'empoisonneuse dans les archives de la justice criminelle que je connais, c'est-à-dire en Europe, mais plus précisément en France, prend une grande épaisseur et en particulier une densité statistique entre la fin du Moyen-Âge et le début de l'époque moderne, au XVIe et XVIIe siècle, et encore plus après le XVIIe siècle, c'est-à-dire au moment où, dans le fond, la peur de la sorcière reflue et où sa répression reflue aussi. Et il me semble, c'est d'ailleurs une piste qui est évoquée par d'autres historiens, en particulier le spécialiste du poison au Moyen-Âge, Franck Collard, que probablement l'empoisonneuse prend le relais de la sorcière dans les archives du crime puni. Alors, pour vous donner quelques indications, elles sont pas vaines, c'est pas pour faire de l'érudition, mais au Moyen-Âge, le stéréotype de l'empoisonneuse existe, mais dans les Trimudons, on a à peu près que 18% de femmes qui sont accusées de ce crime. Au début de l'époque moderne, qu'il s'agisse de l'Angleterre, où c'est 2/3 de femmes accusées d'empoisonnement, dans le ressort du Parlement de Bretagne au XVIIIe siècle, je crois qu'on monte aux 3/4, et si on se limite maintenant à l'empoisonnement familial et conjugal, elle représente entre 50 et 75% des accusés dans le royaume. Donc là, on a réellement un stéréotype de la femme empoisonneuse qui, je ne dirais pas qu'il naît, mais qu'il progresse à l'époque moderne, au moment où, dans le fond, les juges ne croient plus à la sorcière des démonologues et, en tout cas, ne l'érige plus en criminel avoué au bûcher.
Alors, quelle est la résonance sociale de l'emploi du poison par les femmes? Parce que, est-ce que ça veut dire que c'est à nouveau Ève qui va détruire la société, la cellule familiale essentiellement, la transmission des biens? Parce que souvent, on va accuser des femmes d'avoir empoisonné l'homme dont elles vont hériter, leurs parents. Il y a l'argent qui est lié au sexe, déjà, Julie Doyon, là-dedans.
Alors, il y a beaucoup de choses dans votre question. Il y a une très forte résonance sociale et anthropologique. Alors, évidemment, la dimension patrimoniale, elle est très importante dans cette société. Mais je dirais que plus encore, on a de très anciennes figures depuis l'Antiquité d'empoisonneuses. Et que dans le fond, ce qui se passe, c'est à quoi on associe la violence des femmes. On l'associe à d'abord ce qu'elle ne peut pas être. C'est-à-dire, ça peut pas être la violence par les armes, ça peut pas être la violence virile. Et là, il y a un vieux stéréotype que reprennent les criminalistes à l'époque médiévale et moderne, qui est que les hommes combattent par le glaive, c'est emprunté à la culture latine, alors que les femmes n'ayant pas la force physique sont obligées d'utiliser les armes de la ruse, de la sournoiserie et du poison. Elles vont donc commettre un crime occulte, d'autant plus grave d'ailleurs qu'il est occulte. Donc il y a une espèce d'incarnation dans la, je dirais, constitution physiologique des femmes. La faiblesse du sexe les porte plus à ce crime que les hommes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les femmes sont assignées à la sphère domestique dans cette société d'hommes, et en particulier par les juges qui sont des hommes et qui dominent la sphère judiciaire. C'est donc dans ce cadre qu'elles vont détourner les fonctions nourricières qui leur sont assignées, et on va les présumer plus volontiers coupable d'avoir jeté de l'arsenic, essentiellement hein, en France et en Europe à l'époque moderne, c'est l'arsenic, dans la soupe, dans le pain, dans les pâtes, etc., etc. Et c'est donc ici, on a affaire à un crime qui est d'autant plus atroce, je reviens à cette idée, qu'il transgresse les fonctions domestiques assignées aux femmes. Elle provoque le péril en la demeure, hein, si j'ose dire.
Alors, présente évidemment dans l'exposition et dans le livre « Présumé coupable », c'était Frédéric Potcher sur notre antenne qui relatait un jour du procès de Marie Bénard, le 15 mars 1954.
Ici Frédéric Potcher qui vous parle de Bordeaux. L'accusation ne retient contre Marie Bénard que 6 des cas d'empoisonnement sur 12. Il s'agit des décès de Léon Bénard, le mari, des vieux Davaillot, père et mère de l'accusé, de Pauline Lalleron, cousine de Léon Bénard, et Blanche Lebeau, épouse Rivet. et on lit l'acte d'accusation. À la lecture d'un passage qui nous montre une description de la maladie et de la mort de la mère de Marie Bénard, celle-ci éclate en sanglots. L'accusé sous sa mantille roule de nouveau et de lourds sanglots. Le greffier poursuit sa lecture. Interrogé sur la mort de sa mère et sur la présence de l'arsenic, l'accusé a déclaré « S'il y en a dans les restes de ma mère, eh bien messieurs, il y en a partout. » Maître Gaudras se penche sur sa cliente et s'efforce de la consoler. Marie retrouve son calme. Le visage derrière les lunettes semble amaigri, parcheminé. Les 56 mois de prison l'ont marqué. Elle pétrit nerveusement un mouchoir de ses mains longues, fines. On la sent volontaire, décidée, sans doute passionnée, en tout cas intelligente. Elle n'est pas n'importe qui. Elle a certainement dû être la dame bien de Loudun. Et le greffier continue. Elle n'a pas son certificat d'études et on la donne souvent comme vicieuse, menteuse, flatteuse et de mœurs légères. Les renseignements recueillis de toutes parts sont rarement favorables à l'accusé. Marie Bénard, dans son coin, hausse légèrement les épaules et elle a un sourire de mépris. L'acte d'accusation évoque ensuite la figure de ce prisonnier allemand nommé Dietz, à qui l'accusé aurait accordé 1000 complaisances.
La majeure partie des crimes pour lesquels les femmes sont en prison, c'est souvent le crime passionnel ou des crimes familiaux, c'est-à-dire les deux grands crimes féminins qui sont l'infanticide et l'avortement. L'infanticide au XIXe siècle, infiniment plus important que l'avortement. Alors, c'est l'infanticide, c'est l'enfant, mais c'est aussi le sexe. Hein. C'est la femme qui a fauté. Hein. Donc, elle se trouve une domestique de ferme. C'est souvent des domestiques. Alors, il y avait des domestiques à la campagne. C'était la pire des conditions, domestiques à la campagne. Dans certaines régions, la fille de ferme était considérée absolument comme l'objet sexuel. Hein. Elle passait du maître au fils. Bon, alors... Il y avait probablement des précautions qui se prenaient, mais ça finissait par mal finir. Elle se trouve avec enceinte. Et puis voilà, puis elle ne sait pas quoi faire. L'avortement, elle ne sait pas. Hein. Conclusion, bah, elle cache sa grossesse et puis un jour, elle accouche. Et à ce moment-là, bah, si elle a une mère compatissante qui l'aide, ça peut, elle s'appuie sur sa mère. Sinon, toute seule, elle essaie de se débarrasser, de se délivrer, comme on dit. Et puis, elle étouffe l'enfant, elle le jette. Alors, si la communauté villageoise la protège en sachant plus ou moins et en la plaignant, il ne se passera rien. Mais si la communauté villageoise lui est hostile pour une raison quelconque, alors on la dénonce. Et à ce moment-là, on demande une enquête de gendarmerie et ces pauvres filles se trouvent arrêtées et en prison. La criminalité féminine était d'une manière ou d'une autre liée au ventre des femmes.
Michel Perrault, bien sûr, parlant du crime du 19e et du 20e siècle par excellence féminin, l'avortement, l'infanticide. Pierre Fournier, on se rend compte aussi, quand on voit les documents présentés dans cette exposition et dans ce livre, qu'il y a une surreprésentation là des femmes pauvres. C'est le crime, elle le dit, des domestiques de ferme, des domestiques des bourgeois. C'est le crime des femmes qui ne peuvent pas passer inaperçues et qui, tôt ou tard, finiront par être dénoncés. On les a vus le ventre rond, on les voit le ventre plat et il n'y a pas de bébé. Et là, c'est toute la misère de la société qui est exposée.
Ce sont certainement les pièces d'archives les plus émouvantes parce que la plupart commencent par « elle est fille », sans plus de précision. « Elle est fille », c'est-à-dire
pas mariée.
Qu'elle n'est pas mariée. La majorité de ces jeunes femmes, entre 20 et 25 ans, et comme vous le dites, sont plutôt des filles de la campagne, servantes, domestiques, filles de ferme, qui vont donc, suite à un viol, suite à un inceste, on publie et on expose plusieurs interrogatoires qui évoquent l'inceste, donc se retrouvent enceintes, vont tenter par tous les moyens de cacher, de sceller leur grossesse, qui était interdit depuis un édit du roi Henri II, depuis les années 1550. Et elles vont tenter, bien sûr, d'avorter, vainement, puisque leur ultime recours, c'est donc de tuer l'enfant qui sort de leur ventre. Et à travers l'exposition, ce que l'on montre, c'est qu'entre le 16e siècle, l'exclamation de l'une d'entre elles qui dit, alors qu'elle va monter sur l'échafaud, place de Grève, je supplie la cour de juger plus doucement les pauvres femmes accouchées d'enfants. Donc entre cette date, 1610 je crois, et le milieu du 19e siècle, on voit tout de même que la punition est moins grave. C'est-à-dire qu'on a montré à travers deux ou trois pièces en Bretagne, puisque c'est le cas breton que nous avons privilégié, que ce qui se passe au 19e siècle, c'est que aux assises, il y a des jurys. Et souvent, l'accusation réclame la peine capitale pour ces femmes infanticides. Mais le jury populaire est ému par ces cas de détresse, de solitude, et on montre à plusieurs reprises que ces femmes sont tout simplement acquittées. La formule du Parlement de Paris à l'époque, on le voit au bas des actes des ultimes interrogatoires, c'est « ad omnia quitra mortem ». Il faut punir, mais tout sauf la mort. Voilà. Et c'est vrai qu'à travers ces procès-verbaux d'infanticide, on rencontre la misère, l'extrême solitude, l'ignorance aussi de ces jeunes femmes sur ce qui leur est arrivé. Il y a bien évidemment des dénis de grossesse, on le voit,
oui,
on le lit à plusieurs.
Oui, c'est pas une invention du 21e
voilà,
siècle.
Voilà, ça n'est pas du tout une invention du 21e siècle. Donc, non, je n'ai pas été enceinte. Mais on t'a vue grosse, mais je n'étais pas enceinte. J'avais une enflure. Donc, voilà.
Julie Doyon.
Oui, pour ces procédures qui sont effectivement très surprenantes, je pense qu'il y a déni et déni. Il y a le déni qui est une négation devant la justice, c'est-à-dire refuser de reconnaître qu'on a été enceinte. Ça veut pas dire qu'on ne se supposait pas enceinte. Et puis, il y a le déni qui, effectivement, est un processus psychologique qu'on a pu finalement définir au XXe siècle et qui, probablement, avait une réalité antérieure. Moi, je voudrais revenir sur cette question de l'infanticide, si vous le permettez, parce que le titre de l'exposition et du livre, c'est « Présumé coupable ». Et il y a précisément un texte légal qui crée, d'une certaine façon, la présomption de culpabilité des femmes pour pouvoir les punir et pas n'importe quelle peine, pour pouvoir les punir capitalement. C'est l'édit d'Henri II sur le crime de recel, de grossesse et de suppression de part. Ça s'appelle pas encore infanticide, ça s'appelle comme ça, et qui légalement incrimine en fait des femmes. C'est-à-dire que dans l'édit, il est dit qu'il s'agit d'un crime atroce, énorme, exécrable, qui consiste pour des filles qui ont conçu des enfants illégitimement et par moyens déshonnêtes à ne pas déclarer leur grossesse, à accoucher secrètement et à se débarrasser de leurs fruits. Donc on a là, dans cette seule formulation, le fait que l'infanticide est féminin légalement. Or, dans les procédures judiciaires, on voit qu'il y a des hommes qui sont parfois poursuivis comme complices, ou bien, de manière beaucoup plus fréquente, que ces femmes disent avoir été séduites, et probablement aussi que leurs séducteurs leur ont conseillé, quand il est encore présent, de se débarrasser de l'enfant. Les hommes ne sont jamais poursuivis comme les femmes. Et puis l'autre chose, c'est cette fameuse présomption de culpabilité qui est également légalement constituée par l'édit d'Henri II, puisqu'il est dit que même si la femme n'avoue pas, or sous l'Ancien Régime c'était un peu une des conditions sine qua non pour pouvoir punir capitalement que d'avoir la preuve par l'aveu, eh bien même si elle n'avoue pas, si les trois critères suivants sont réunis, à savoir la femme n'a pas déclaré sa grossesse, on a la preuve qu'elle a accouché d'un enfant, un enfant mort a été retrouvé sans avoir reçu le baptême, eh bien elle peut être punie capitalement. Voilà donc la création, je dirais, légale d'un crime de femme qui sera très sévèrement puni jusqu'à la fin du XVIIe siècle et qui amorcera effectivement une modération des peines à partir du XVIIIe siècle que prolonge finalement les acquittements du XIXe siècle, hein, malgré la césure révolutionnaire et la modification en profondeur de l'appareil judiciaire. Il y a des formes d'atténuation qui se prolongent de part et d'autre du XVIIIe et du XIXe siècle.
Et puis en avançant dans l'exposition et dans l'histoire, bien sûr, on se rend compte que les fils rouges, ils réapparaissent parfois plusieurs siècles plus tard. On a parlé du procès de Jeanne et du fait qu'elle avait pénétré de façon scandaleuse dans la sphère politique militaire des hommes. On va retrouver ce même type de questionnement sur les femmes, sur le sexe, sur leur soumission aux hommes dans la Commune de Paris avec les pétroleuses, le procès de Louise Michel à qui ces juges poseront en tout cas la question « On vous a vu habillée en garde nationale ». On va écouter l'historienne Michèle Rio-Sarcet parler de ces femmes scandaleuses, les pétroleuses et les tricoteuses.
Qui a mis le feu aux Tuileries ?
Allumé par les communards, mais de pétroleuses, il n'y en avait point. Je crois que toutes les enquêtes
ont mythe.
Été... C'est un mythe.
Légende.
Une légende, un mythe. Parce que ça a toujours été comme ça, en France comme ailleurs. Lorsqu'il y a désordre, lorsqu'il y a dysfonctionnement, lorsqu'il y a immoralisme, comme les bourgeois et comme les libéraux appellent tous ceux qui sont critiques à l'égard de l'ordre, eh bien, on attaque l'excès, l'extrême. Et les femmes de la Commune ont été considérées comme responsables, et particulièrement, a-t-on dit, les pétroleuses. Comme si les femmes étaient le symbole d'une famille morale organisée, d'un ordre social harmonieux. Et dès l'instant où elles sont entrées en politique, où elles prennent la parole publique, et là, elles deviennent véritablement des enragées, des hystériques, et du même coup, elles deviennent le prétexte pour évacuer ces désordres. Et on les a appelées les pétroleuses, comme pendant la Révolution française, on a appelé les femmes les tricoteuses. Mais autre mythe, mais qui était fondé là sur une exclusion dès le départ de la part des révolutionnaires, puisque les femmes n'avaient pas le droit à la parole publique au même titre que les hommes. Elles investissaient donc les tribunes et elles invectivaient les révolutionnaires lorsque cela leur déplaisait, mais en même temps, elles continuaient leur travail, donc elles tricotaient.
Pierre Fournier, la prise de position des femmes dans les périodes agitées, révolutionnaires, on pense à Charlotte Corday par exemple, ça scandalise les hommes, ça scandalise les juges. On pense aussi au procès de Marie-Antoinette qui est présent dans cette exposition. Marie-Antoinette, les juges ont tenté évidemment de parler de traîtrise, mais d'essayer de démontrer que c'était une mère incestueuse, que c'était une femme hystérique au propre sens du terme. Il faut donc, lorsque les femmes entrent en politique, qu'elles sont accusées politiquement, il faut les décrédibiliser en disant qu'il s'agit au départ d'un désordre du sexe.
Absolument. Donc l'archétype de la pétroleuse, parce qu'il s'agit vraiment d'un archétype, comme l'indiquait Madame Rioux-Sarcé, ce ne sont pas des femmes qui ont incendié les grands bâtiments publics à Paris lors de la Semaine sanglante, ce sont des hommes. Il s'agit d'environ un millier de femmes qui ont été jugées devant le Conseil de guerre à Versailles en 1871. Aucune n'a été condamnée pour avoir été incendiaire. Mais on les a condamnées, parfois très lourdement, certaines ont été condamnées à mort, la peine a été commuée en travaux forcés à perpétuité, donc déportation vers les bagnes de Guyane et de Nouvelle-Calédonie. Alors, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que même Louise Michel est interrogée sur ses relations intimes avec un fédéré, un certain Ferré, mais ce qu'on leur reproche avant tout, c'est d'avoir provoqué les hommes à la violence, de leur avoir dit où se trouvaient les barils de pétrole, etc., etc., de les avoir incités donc à commettre des actes de violence extrêmes. Donc c'est vraiment le désordre. Et il va naître donc de cette Commune de Paris, de sa répression, la figure de la pétroleuse. Et à la différence des époques précédentes, il y a l'image omniprésente, puisqu'il y a la presse illustrée, qui n'existait pratiquement pas au XVIIe siècle, il y a la photographie. Et on montre dans le livre, comme dans l'exposition, deux photomontages extraordinaires d'Eugène Appert, qui a photographié tous les communards interrogés à Versailles, et qui fait deux montages où l'on voit les femmes. Le premier, c'est des femmes qui participent à un peloton d'exécution pour donc tuer des Versaillais. Et une autre photographie, un autre photomontage où l'on voit des femmes qui ne sont pas à leur avantage, là, puisqu'on en voit plusieurs boire au goulot, ce qui est invraisemblable. On en voit plusieurs non coiffées, donc avec les cheveux décoiffés, dénoués, ce qui est là aussi
le signe d'une mauvaise vie.
D'une mauvaise vie, puisque seules les prostituées à l'époque ne sortaient pas couvertes. Et on voit Louise Michel, donc, qui a manifestement été enlaidie par tous les gens qui ont essayé de la représenter à l'époque. Et donc on voit à travers la figure de Louise Michel comment naît cette iconographie de la femme violente, de la femme qui sème le désordre. On retrouve Pandore, bien sûr, hein, à travers ses constructions iconographiques, ses représentations. Et cette image perdure. Cette image perdure jusqu'à nos jours. Hein. Pétroleuse est assez curieusement un mot qui ne connaît pas le masculin. Hein. Et pourtant, sur le plan pénal, ce ne sont pas des femmes qui ont incendié l'hôtel de ville, le palais de justice, etc., etc.
Mais en politique, c'est vrai que le problème du sexe, des amours mal placés, des suggestions masculines, il perdure jusqu'à la fin donc de cette exposition. Avec la libération de Paris, la libération de la France, où les femmes qui avaient aimé des Allemands, ou les femmes qui s'étaient engagées aux côtés de l'occupant, ont été généralement tondues avant d'être jugées, comme s'il fallait punir le sexe, l'avilir, avant même de parler du fond des problèmes. Fabrice Virgili est celui des commissaires de cette exposition qui s'est occupé des femmes tondu, et c'est vous, Gladys Mariva, qui l'avez rencontré pour nous aujourd'hui.
Oui, j'ai eu l'honneur de faire la visite de l'exposition avec Fabrice Virgili, donc auteur d'une thèse sur la tonte des femmes accusées de collaboration, directeur de recherche au CNRS, et donc qui a signé dans le catalogue la partie consacrée à la traîtresse, hein, qui est incarnée par la femme tondue. Ce qui frappe quand on arrive dans cette salle, donc après avoir fait la sorcière, l'empoisonneuse, l'infanticide et la pétroleuse, c'est l'abondance de photos, des films et aussi de documents, parce qu'en fait, depuis le 27 décembre 2015, des fonds qui étaient avant soumis à des délais de communication ou couverts par le secret défense sont libres d'accès. Parmi ces documents, il y a les archives de la police judiciaire de 1939 à 1945. Et donc, c'est une véritable mine d'or que Fabrice Virgili nous a fait visiter.
Ce qui est intéressant, finalement, ici, c'est de voir que dans les vitrines, on a toutes sortes de documents qui sont essentiellement des procès-verbaux, puisque après la libération, se mettent en place des juridictions qui vont juger les Français et les Françaises coupables de trahison. Et donc, parmi cette population de collaborateurs une proportion assez exceptionnelle de femmes.
Pourquoi ?
Parce que la France est battue en 40 et que la libération est aussi un moment de reconquête d'une virilité nationale. La masculinité essaye de reconstruire son honneur bafoué en 40 par la défaite. Depuis la Révolution française, le devoir des hommes français, c'est finalement d'empêcher que l'ennemi vienne égorger nos fils, nos compagnes. Et en 40, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y est pas parvenu. Et donc, après les 4 ans d'occupation et une accumulation quand même de souffrances et d'humiliations, je crois qu'il faut aussi penser l'occupation comme un grand moment d'humiliation, il y a une volonté justement de revenir sur le devant de la scène de la part des hommes. Et une des manifestations, ça va être finalement de s'en prendre aux femmes. C'est comme s'il y avait une métaphore finalement de leur corps et du territoire national. Et donc avoir eu soit des relations sexuelles ou amoureuses avec l'ennemi, soit simplement avoir été du côté de l'ennemi, même à travers un engagement politique, est perçu véritablement comme une trahison. Et donc ces femmes vont être la cible de non seulement d'accusations, mais de condamnations. On peut lire quelques extraits, alors attendez. Au mois de juin 1943, ma sœur Madeleine travaillait chez Junker à Villa Coublay pour les Allemands. Elle était secrétaire et fréquentait un officier allemand qui a commencé à venir chez mes parents à la fin de l'année 1943. La collaboration des femmes est vraiment perçue comme une trahison qu'il faut châtier dès le début. Les hommes, j'ai envie de dire presque par définition, on ne va pas s'intéresser à leur sexualité. C'est-à-dire que la sexualité des hommes ne concerne que les hommes dans cette société. Par contre, la sexualité des femmes concerne les hommes. Parce que le mari, le frère, le père est en charge de, c'est la domination masculine, de surveiller la sexualité de ces femmes. Alors, il ne faudrait pas avoir, et c'est un peu ce qu'on essaie de montrer aussi ici, l'image de, uniquement de jeunes femmes innocentes, amoureuses. C'est nier finalement la capacité de femmes à s'engager aussi politiquement. Elles sont poursuivies, dans certains cas, on le voit, pour avoir dénoncé des résistants, des juifs, qui ont payé de leur vie ces dénonciations. En fait, l'image de la tondue est restée très très forte et a finalement presque masqué tout le reste. Une des plus célèbres, qui est la photo de Capa à Chartres, qu'on a montrée ici, telle qu'elle a été publiée dans Life Magazine à l'automne 1944, nous montre une femme tondue avec son bébé. Elle est devenue emblématique de l'épuration, mais elle n'est pas du tout représentative de l'épuration. C'est-à-dire qu'en fait, dans toutes les situations de tonte, le bébé n'est jamais là. C'est vraiment contre les femmes qu'on en a. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu mettre toutes ces autres photographies qui nous montrent aussi quelles sont les preuves utilisées à l'époque par les juridictions, par les commissions d'épuration, pour prouver la proximité avec les Allemands. Et donc la plupart des photographies, on les voit ici dans ces albums par exemple, ont été retrouvées soit au domicile de ces femmes, soit sur elles, soit parfois dans le portefeuille d'un soldat allemand qui est fait prisonnier, et on considère que c'est une preuve, parce que contrairement à ce qu'on pense, les juridictions de l'épuration ne sont pas forcément des procédures expéditives. Il y a une enquête, il y a une instruction et on va recueillir des preuves. Et ici, on le voit. On voit des scènes donc de femmes posant en civil à côté d'un soldat allemand uniforme, parfois empruntant le calot ou le casque du soldat allemand dans une sorte de mise en scène. Et évidemment, au moment où ces photos sont prises, c'est un souvenir au sein d'un couple. Mais à l'été 1944 et dans les mois qui suivent, ça devient une preuve de la collusion entre ces femmes et les collaborateurs. La photographie et le film font partie de la violence. Dans la scène d'humiliation de la tonte, est pratiquement prévu le passage devant le photographe. Alors ici, ce sont des images britanniques. Pendant la tonte, on voit à travers ces expressions tout à fait goguenardes, souriantes. C'est une particularité des images et nous permet de voir que ce sont toujours des hommes qui forment le premier cercle. C'est-à-dire c'est toujours un homme qui va tenir soit la paire de ciseaux, soit la tondeuse, et toujours avec des symboles de pouvoir, un casque, un brassard, de la résistance ou un autre. Et puis tout autour, un deuxième cercle de personnes, mais que je ne qualifierais pas de spectatrices, mais bien d'actrices, c'est-à-dire qu'elles vont crier, insulter, applaudir et participer. Et on a, là on le voit à travers les enfants, toute la communauté est présente. C'est-à-dire quel que soit l'âge, on est là pour regarder, applaudir. On le voit ici encore une fois avec toutes ces mains qui saluent la caméra. Donc il y a à la fois une mise en scène du châtiment, on a vraiment cette organisation du supplice, on le voit encore ici, Parfois, il y a tellement de monde qu'on ne distingue plus très bien les personnages. Hein. Voilà, ici. Donc, c'est un cortège, ça, c'est une scène fréquente. Plusieurs femmes qui ont été tondues et qui sont amenées d'un lieu à l'autre de la ville, de l'endroit de la tonte au lieu où elles vont être internées, parce qu'en général, elles ne sont pas libérées. Là, elles sont, combien ? 5, 6, je ne sais pas exactement. Des attitudes différentes parmi ces femmes. Certaines qui ont l'air totalement effondrées, hein, en larmes, on le voit. Le regard au sol, vraiment, tout le corps exprime l'humiliation, et certaines qui, à l'inverse, vont essayer de montrer une sorte de crânerie, hein, de fierté, et qui vont parfois sourire, une sorte de défi, hein, comme si elles assumaient tout ça et qu'elles voulaient montrer qu'on ne leur ferait pas baisser la tête. Alors, la particularité de la tonte, et c'est la grande différence entre les femmes et les hommes, c'est que des hommes collaborateurs sont également poursuivis, peuvent être maltraités et poursuivis ensuite devant les tribunaux, comme les femmes, mais la tonte ne s'applique qu'aux femmes. Souvent, on a entendu dire qu'il valait mieux être finalement tondu que fusillé. C'est une sorte de lieu commun qui s'est développé après la libération, sauf que ce n'est pas ça l'alternative. Certaines femmes ont pu être tondues et fusillées également. Il y a une nécessité pour les hommes, à la libération, de reprendre en main les femmes de France et le contrôle de leur corps. D'autant plus que 1944, c'est le droit de vote, c'est-à-dire qu'elles acquièrent la citoyenneté politique. Et donc, il y a une sorte de compensation pour les hommes français de l'époque. C'est-à-dire, d'un côté, certes, vous obtenez la citoyenneté politique, mais nous gardons le contrôle de votre corps. Et la question du corps des femmes, toutes les lois sur ensuite la contraception, l'avortement, le divorce, cette question du corps va être reposée fondamentalement. En 44, finalement, elle est posée, mais réglée de la manière la plus brutale qui sont ces tontes de femmes.
Et oui, merci Gladys Maïva. Et ce qu'on peut retenir du discours formidable de Fabrice Virgili, la sexualité des hommes ne concerne que les hommes, la sexualité des femmes concerne les hommes. Et donc les juges, qui étaient évidemment tous des hommes, une exposition tout à fait passionnante, présumée au féminin coupable, qui se tient à l'hôtel de Soubise à Paris, les grands dépôts des archives jusqu'au 27 mars 2017, et le livre qui vient de paraître aux éditions L'Iconoclaste. Merci à mes deux invités, Julie Doyon et Pierre Fournier, de nous avoir entraîné dans cette exposition. Merci à vous, au revoir.
Merci à vous.
L'humeur vagabonde, c'est fini pour aujourd'hui, mais nous nous retrouverons dimanche prochain, 1er janvier, pour visiter une exposition qui se déroule à Limec, abbaye d'Ardennes en Normandie, une exposition sur les traces laissées dans leurs archives par les intellectuels, tout à fait passionnant. Bien sûr, France Inter, ça continue, puisqu'après les informations de 15h, vous avez comme d'habitude rendez-vous avec Fabienne Chauvière et ses aventuriers.